Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une masterclass de stylistique de Gérard Berthomieux, professeur à la Sorbonne. Elle sera consacrée ce soir à la chute d'Albert Camus. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci, bonsoir à tous. Je vous vois à peu près, les projecteurs dans les yeux. J'espère que vous m'entendez. Ça va ? Voilà, donc bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous aviez assisté à la première séance. Certains d'entre vous, oui, j'en suis certain. Si vous avez assisté à la première séance, vous avez repéré déjà, je pense, sous le petit cartouche vert de la page 1 de l'exemplier, le mot d'ordre. C'est le mot dont je m'étais servi, vous savez, la dernière fois. C'était la conclusion. Sur l'exemple de Proust, pour définir ce qu'on appelle un style d'auteur. Et justement, Proust dit, si l'on cherche à définir ce qui fait un style d'auteur, on le trouvera dans une espèce d'ordre, dit-il, où toutes les choses, je cite, « perdant leur premier aspect de choses, viennent se ranger les unes à côté des autres, sans rien qui reste en dehors, qui soit réfractaire à cette assimilation. » On n'a jamais donné de plus belle définition de la cohérence interne d'un style. Eh bien, si l'on veut essayer d'approcher de la manière la plus pertinente un style de Camus, cet ordre, qui est essentiellement contradictoire, donc, c'est l'ordre de l'envers et de l'endroit. Alors, les deux épigraphes que j'ai inscrites, vous le voyez sous le titre général, l'une qui appartient à Camus même, l'autre qui est de Clamence, donne bien l'aspect de cette coordination un peu contradictoire, voire toujours et exprimer en même temps les deux aspects, dit Camus, et formule célèbre de Clamence, « J'ai vécu ma vie entière sous un double signe, on va le voir ». Alors, il y a effectivement un ordre de l'envers et l'endroit chez Camus. Inutile de vous dire que si on voulait épuiser toutes les formes, l'évolution, les implications d'un tel ordre, tout un cycle des conférences n'y suffirait pas, évidemment. Donc, je vais resserrer la problématique en tenant compte du thème général de ces masterclass, qui est le pouvoir des mots, hein, et en centrant l'étude de l'envers et l'endroit sur l'utilisation précisément des mots. Et vous verrez effectivement le pouvoir qu'ont les mots une fois manipulés par Clamence et le pouvoir qu'ont les mots une fois recréés par Camus, puisque les deux perspectives ne sont pas exactement équivalentes, évidemment. Alors, ce centrage de problématique, ce sera l'objet de la première partie, un ordre stylistique. Je vais vous dire rapidement comment nous allons procéder. Je vais tout d'abord centrer, puisqu'il est question de l'envers et l'endroit, historiquement, la chute paraît en 1956, en mai 1956. En 1958, avec une préface qui est extrêmement célèbre, Camus réédite sa première grande œuvre qui s'intitule « L'envers et l'endroit » et qui était parue au début des années 30. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans le rapport de la chute à l'envers et l'endroit est manifeste. On le verra en détail dans un instant. Deuxième manière de centrer la chose, toujours avec les signes, c'est autour de la notion de mémoire. Ce qui est, ça paraît paradoxal, hein, ce qui est un peu au centre caché du rapport entre l'envers et l'endroit, c'est la notion essentielle pour Camus de mémoire, qu'il a vraiment pensé tout au long de sa carrière et de sa vie. Et enfin, troisièmement, on va passer à une mémoire des signes. Je n'ai donc pas besoin de vous dire que ce qui va nous intéresser ce soir principalement, c'est quelque chose qui nous est tous commun, tous familiers, plus ou moins, c'est le phénomène de l'étymologie, c'est-à-dire la racine étymologique des mots, à laquelle la chute accorde une importance absolument, vous le verrez, considérable et quelquefois un petit peu vertigineuse. Alors, j'ai employé un mot, vous le voyez sous le troisième mot, ne soyez pas effrayés. Hein. Ce mot est un mot qui nous vient de la rhétorique ancienne. Hein. C'est ce que l'on appelle l'anticatastase. Alors, c'est très bizarre. Alors, vous verrez, ça domine toute la pensée de Camus. Littéralement, que vous ayez fait ou du grec ou pas, anticatastase, ça veut dire que ce qui vient, ce qui se produit, ce qui est, stase, kata, après, ce qui se produit donc après ou plus loin, est en réalité anti, à l'inverse de ce que l'on attendait. Et une des formulations les plus populaires de l'anticatastrophe, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, qui est une forme d'inconséquence totalement inattendue. Vous allez voir que la pensée de Camus court sur l'inconséquence et que ce qu'il appelle l'absurde est une forme radicale d'inconséquence. Et la figure qu'il lui a donnée, c'est, on le creusera, ce qu'il appelle, ce qu'on peut appeler l'anticatastrophe. Alors je remonte un tout petit peu au premièrement, la réédition 58 de l'envers et l'endroit. Il écrit une préface remarquable, Camus, qui se termine de la manière suivante. Et pour nous, ce sera important, je vous lis la citation 1. « Du moins, je sais cela, dit-il, de science certaine, qu'une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l'art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles, une première fois, le cœur s'est ouvert. » Et alors, en effet, Camus prend conscience, hein, en 1956, au moment de la chute, qu'il a réécrit avec la chute une forme pleinement achevée de ce qu'il avait très maladroitement approché avec l'envers et l'endroit. Et il a donné à la problématique de l'envers et l'endroit sa forme la plus complexe et la plus totale. C'est une bonne définition pour l'évolution d'un style d'écrivain. Et je vous demande de retenir, d'avoir en mémoire, voir ça compte ce soir, vous allez voir, d'avoir en mémoire la citation qui suit. C'est la première chose qui m'a fasciné quand j'ai commencé à étudier la chute. Dans une des nouvelles de l'envers et l'endroit qui s'appelle « Oui et non », qui est une des manières de formuler l'envers et l'endroit, il y a une description, c'est la citation numéro 2, d'un bar qui se trouve face à la mer, et ce bar est traversé d'un chromatisme qui va être obsédant pour Camus. Ce chromatisme, vous pouvez rapidement lire en diagonale l'extrait, vous le verrez, c'est celui du rouge et du vert. Vous verrez que nous terminerons tout à l'heure sur le rouge et le vert, et vous verrez jusqu'à quel symbolisme le rouge et le vert a été poussé. Or, par parenthèse, le rouge et le vert, c'est une des formes de l'envers et l'endroit. Ce sont deux couleurs complémentaires qui s'opposent, le vert étant le froid, le rouge étant le chaud. Donc vous voyez que très tôt, hein, dans son imaginaire, il cherche des concrétisations visuelles de cet envers et de cet endroit. Eh bien, vous verrez ce que la chute fait du chromatisme du vert et du rouge. Mais ça, c'est la surprise de la fin. Alors, passons un peu avant dans la problématique. Je passe au deuxièmement. Je vous ai marqué au centre la mémoire entre éveil et sommeil ou le partage irréversible de l'exil et du royaume. Vous savez que la chute devait faire partie comme nouvelle au départ de ce recueil de nouvelles qui est une des dernières œuvres de Camus qui s'appelle « L'exil et le royaume ». Encore une formulation de l'envers et de l'endroit, bien entendu. Et ce qui explique un petit peu ce que j'ai appelé le partage réversible de l'exil et du royaume, c'est justement cette mémoire. Alors, il y a une formule qu'on trouve chez Camus à intervalles réguliers dans les carnets et qu'il a même repris dans une œuvre, alors éditée, qui est « L'été ». C'est une formule qu'il emprunte à Stevenson, l'écrivain, et qui est la suivante. « Cette vie rebelle à l'oubli, rebelle au souvenir dont parle Stevenson. » Comment peut-on être à la fois rebelle à l'oubli et rebelle au souvenir? Eh bien, les deux formes de rébellion expliquent ce que Camus nomme comme l'absurde et comme la révolte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est rebelle au souvenir? Eh bien, c'est une vie qui va, bien entendu, ignorer le temps, qui ne pense pas à l'avenir et encore moins au passé, qui vit dans l'instant présent. Mais cet instant présent, cette facilité de se laisser aller au plaisir de l'instant, obligatoirement vous prive de la conscience de ce qui ruine le plaisir, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous promis à la mort. Et la figure la meilleure de ce sommeil de la mémoire, c'est Meursault, bien entendu. Le premier morceau qui ne vit jamais que dans l'instant, hein, et qui veut ignorer totalement qu'il doit apprendre la fatalité et la mort. Alors, quand la vie est non pas rebelle au souvenir, mais rebelle à l'oubli, c'est que, bien entendu, à ce moment-là, on prend conscience que si on s'aveugle, on peut vivre dans l'instant, mais justement, on tombe dans l'absurde et on oublie que nous sommes tous voués à la mort. Alors voilà pourquoi exil et royaume sont réversibles, parce que l'exil au sens où on est isolé du bonheur en pensant à la mort, hein, est aussi un royaume, parce qu'on a la conscience à ce moment-là de notre finitude, et à l'inverse, les choses peuvent se renverser. Regardez les deux textes qui suivent, qui éclairent justement la formule de Stevenson. Je lis ceci dans l'été. « Que puis-je désirer d'autre que de rien exclure et d'apprendre à tresser de fil blanc et de fil noir une même corde tendue à se rompre ?» Dans tout ce que j'ai fait et dit jusqu'à présent, il me semble bien reconnaître ces deux forces, même lorsqu'elles se contrarient. Je n'ai pu renier la lumière où je suis, et cependant je n'ai pas voulu refuser les servitudes de ce temps. Vous voyez, ni l'égoïsme, ni uniquement l'altruisme. J'aimerais ne rien éluder et garder exact une double mémoire. Oui, il y a la beauté, il y a les humiliés. Je ne voudrais être infidèle ni à l'un ni à l'autre. Alors, si vous pensez à la chute, eh bien, précisément, le bonheur de Clamence dans son passé, c'est qu'il a été longtemps rebelle aux souvenirs. Il ne vit que dans l'instant. Je vous lis les citations de la série 4. « Jusque-là, j'avais été aidé par un étonnant pouvoir d'oubli. J'oubliais tout et d'abord mes résolutions. Au fond, rien ne comptait. Comment vous dire ? Ça glissait. Oui, tout glissait sur moi. » En réalité, le premier Clamence avant la chute, eh bien, c'est Meursault du 16e arrondissement. C'est-à-dire, c'est le grand bourgeois qui ne vit que dans l'instant, qui ne pense absolument pas plus loin que son plaisir immédiat, jusqu'au jour où, évidemment, la mémoire va lui revenir. Regardez. « Je vivais donc sans autre continuité que celle du au jour le jour, du moi, moi, moi. J'avançais ainsi à la surface de la vie, dans les mots en quelque sorte, jamais dans la réalité. » Je ne me suis jamais souvenu que de moi-même. Peu à peu, la mémoire m'est revenue, ou plutôt, je suis revenu à elle, et j'y ai trouvé le souvenir qui m'attendait. Ce souvenir, évidemment, de la noyade, qui va être le début de sa propre déchéance morale. Ce qu'il dit, cette aventure que j'ai trouvée au centre de ma mémoire, et dont je ne peux différer plus longtemps le récit. Par parenthèse, cela explique, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, si vous avez lu La Chute, je l'espère, vous savez que le récit de la noyade est constamment différé, et il se trouve à la fin de la troisième partie, c'est-à-dire exactement au milieu du livre et dans la narration après l'épisode du rire qui pourtant chronologiquement hein, vient après la noyade. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis la noyade au centre du livre, bien parce que justement, c'est ce qui va occuper le centre de la mémoire. Hein, et l'épisode est obligatoirement au centre même du livre. Il a été décalé pour cette raison. Par parenthèse, on a aussi souvent fait remarquer, ça j'y reviens tout à l'heure, que la ville d'Amsterdam, vous savez, il la compare à l'enfer, parce qu'il dit que, comme l'enfer, elle est concentrique, Amsterdam, et pleine de canaux. Et elle a un peu la forme exactement de ce qui se passe quand un corps tombe dans l'eau, parce que quand un corps tombe dans l'eau, ça fait des cercles concentriques. Donc un petit peu, ça, il retrouve dans Amsterdam la hantise de son propre malheur. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà pour la mémoire, je me suis fait comprendre, la mémoire absolument indispensable à l'homme révolté, qui ne veut pas refuser l'idée de sa mort. La première marque de la révolte, c'est la conscience lucide de sa finitude. Mais la mémoire qui est aussi, alors quand on essaie d'être simplement heureux, la façon dont on oublie les choses. Alors vous allez voir que les mots, c'est un peu pareil. Alors je passe à l'antique antastase ou l'absurde dans la langue. Alors, je vous expose rapidement la thèse que d'une certaine de façon je vais présenter devant vous. L'étymologisme, alors quand on dit étymologie, c'est évidemment la racine du mot, la façon d'utiliser comme source d'expressivité l'étymologie, c'est ce qu'on appelle l'étymologisme ou figure étymologique. Alors l'étymologisme sera effectivement anticatastase, c'est-à-dire c'est le chiffre d'une ironie du sort qui est lisible à travers nos vocables. Donc ce qui vient après, hein, catastase. Et dans l'histoire du mot, donc son sens ultérieur, à l'inverse de ce que nous enseigne la mémoire de son origine. Alors je vais prendre en détail, pour fixer les idées, le cas de chance, c'est un des mots clés la chute. On aura beau s'évertuer, vous le verrez, à un credo humaniste pour le mot chance. Le mot chance, Le mot chance, dans l'histoire, il a été chance, parce que c'est le substantif qui correspond à chevoir, c'est-à-dire tomber. Il n'est d'autre chance, va nous dire Clamence, vous allez le voir, que la chute. Et il va subvertir tous les emplois du mot chance en les tirant, bien entendu, vers une sorte de fatalité interne de la chute. Donc vous n'avez aucune chance de vous en sortir, ce sera la leçon finale. On le verra tout à l'heure. Donc l'étymon est la trace, au fond, d'un absurde dans la langue. Et alors, bien entendu, on a dit que la chute était le procès de la langue, elle l'est. Elle est d'une part une instruction très tendancieuse, bien entendu, par Clamence, qui va le vouer au nihilisme, parce qu'il essaie d'emprisonner et de condamner les hommes, mais il va se retrouver tout seul pour finir. Mais alors, ce qui est un peu le paradoxe de cette œuvre, c'est que ce qui est condamnation, quand on l'attribue à Clamence, a été pour Camus une occasion d'un achèvement stylistique, d'une virtuosité stylistique exceptionnelle. Vous allez voir ce que peut révéler l'envers étymologique de l'endroit des mots les plus simples. Je disais à un de mes collègues, qui eût cru que lorsque je fus alerté, contenait en trois syllabes toute l'histoire de la chute. Vous verrez dans un instant pourquoi. Alors, la chance. Regardons d'un peu plus près. Enfin, dans le détail, me direz-vous, je commence au bas de la page 1. Alors, tout d'abord, puisque l'anticatastase va être inconséquence, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un tic stylistique chez Camus. Si vous connaissez bien un peu tout là, vous l'avez noté, il y a un tic stylistique. C'est ce que la rhétorique appelait l'exemplum, c'est-à-dire pas simplement l'exemple, mais l'anecdote qui est censée être une sorte de symbolisation parfaite d'un concept, d'une idée, d'une situation. Et l'œuvre de Camus fourmille d'exemplats, puisqu'il faut employer le pluriel. Je vous en ai mis quelques-uns. Regardez, et vous allez voir, on voit apparaître tout de suite les inconséquences de l'absurde. 5A. Dans les carnets, il note ça pour un roman, idée de roman. Des portées qu'on fait mettre nus. En se déshabillant, un bouton de manchette roule dans un coin. Il va le ramasser. Autrement dit, il se conduit comme s'il devait encore vivre, alors que précisément, il va dans très peu de temps mourir. Autrement dit, il y a, fut-elle involontaire, inconséquence dans sa conduite. Évidemment, c'est une sorte de contradiction tragique. 5B, radici, milicien, engagé à la fête l'SS, poursuivi pour avoir fusillé 28 détenus de la santé, il a assisté aux 4 fournées de l'exécution, appartenait à la Société protectrice des animaux. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire le caractère tragique de cette contradiction, tragicomique de cette contradiction. Jarry, alors c'est une anecdote qui cite plusieurs reprises Camus. Cette histoire de Jarry et l'agonie à qui on demandait ce qu'il voulait. Un cure-dent. Il l'eut, le prit à la bouche et mourut satisfait. Oh misère, on en rit et personne ne voit la terrible leçon. Non, on voit à la fois l'envers et l'endroit. Pas plus qu'un cure-dent, rien d'autre qu'un cure-dent, autant qu'un cure-dent. Voilà toute la valeur de cette vie exaltante. Ben, ça pourrait être dit par Clamence sous forme de dérision cynique, bien entendu. Et enfin, dans la chute, je passe à la page 2, vous avez quantité justement d'anecdotes de ce type. J'en ai cité une, vous l'avez peut-être en mémoire. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire, il aimait d'un seul amour l'humanité entière et les bêtes. Bon, je passe sur la coordination qui est un peu cynique là aussi. Une âme d'élite, oui, cela est sûr. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion, bon, il s'agit de la dernière guerre mondiale, évidemment, en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison « D'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus ». Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation ? Des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. Anti-catastase. Il met un panneau en espérant que c'est, et bien évidemment, des gens de bonne volonté qui vont arriver. Ce qui arrive, ce sont des gens qui viennent le tuer. Ironie du sort, bien évidemment. Et la situation est totalement absurde, bien entendu. Alors, le même type de contradiction, je passe au 1-3-2, se vérifie dans le langage. Il y a dans l'œuvre de Camus, pas très bien connu, mais il y a quantité de réflexions sur la langue, sur la portée de la langue et du discours. Et alors, il y a un problème qui l'a hanté, c'est celui de la vérité et du mensonge dans la langue. Je vous ai mis deux citations, je ne peux pas tout citer. L'une qui est extraite d'un livre assez rare, vous ne le trouverez que dans l'édition de la Pléiade, qui est sur une philosophie de l'expression, qui est une œuvre de jeunesse sur un livre d'un philosophe contemporain qui s'appelait Brice Parrain. Et l'autre, c'est un extrait du mythe de Sisyphe, ça c'est plus connu. Je lis le 6a. La vraie question est moins de savoir simplement si notre langage est mensonge ou vérité, mais de savoir si notre langage n'est pas mensonge au moment où nous croyons dire vrai, si les mots ont une chair ou s'ils ne sont que des coques vides. À vrai dire, nous savions déjà que les mots nous manquent parfois, alors attention à ce qui suit, et que leur seul rôle est de nous duper en faisant mine de tout arranger. Autrement dit, ce sont des écrans qui nous masquent la vérité et qui nous mentent. Et c'est cet écran que, de manière cynique, Clamence va faire systématiquement sauter, vous le verrez. Nous n'ignorons pas que payer sa dette à la société, mourir au champ d'honneur, mettre fin à ses jours, faire toute la guerre, s'en aller de la poitrine, étaient des formules toutes faites destinées à camoufler les expériences désespérantes. C'est ce camouflage que Clamence va saper systématiquement. Regardez maintenant dans le mythe de Sisyphe. Alors là, le texte est un petit peu plus connu. C'est la page où il y a cette admirable formule quand il dit « Nous sommes occupés par le souci ». Hein, c'est le mot qu'il donne à la hantise de la finitude de la mort. Et il continue « Pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte, mais un moment vient toujours où il faut le porter. » À partir du moment où vous avez la conscience précisément de votre finitude de la mort, le temps vous pèse, parce que le temps, comme on dit, est compté. « Nous vivons sur l'avenir. Demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge, tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables, car enfin, il s'agit de mourir. » Alors là, Camus fait le rôle de Clamence, mais d'un Clamence qui serait charitable. Il essaie de remettre les choses à l'endroit, de vous éclairer, au lieu de vous mentir avec les mots. Un jour vient pourtant où l'homme se situe par rapport au temps. Il appartient au temps et à cette horreur qui le saisit. Il reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain. Et quand tout lui-même, aurait dû s'y refuser, cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Alors, c'est la révolte plutôt passive. La vraie révolte, c'est quand Sisyphe va remonter la pente, c'est-à-dire quand il est conscient de sa mort et qu'il accepte sa mort lucidement. Voilà donc pour cet aspect mensonge-vérité. Alors maintenant, venons-en vraiment. Vous allez pouvoir mettre en rapport ce que nous avons dit avec la chute, au cas de Clamence à propos en parler. Alors, 1.3.3, usage de l'étymologie dans la Chine. Alors, auparavant, pour que vous ne croyez pas que je vous raconte des histoires personnelles, Camus, ben, on connaît Camus sous son aspect moral plutôt. L'aspect proprement écrivain, manipulateur de la langue, on le connaît moins. Alors, quand on lit Camus de près, on s'aperçoit qu'il y a quantité de réflexions sur, précisément, la mémoire des mots et l'étymologie. Alors, ça peut être de manière plaisante, regardez cet « a ». D'ordinaire, dit-il, je veux dire, quand on a de la culture, on se tire de tout avec l'étymologie. Par parenthèse, vous remarquez que lui aussi, c'est être ironique et cynique, et que c'est une partie de lui qu'il a cédé, bien évidemment, à Clamence. 7b. Au hasard, comme ça. Il y en a plusieurs cas dans les carnets. Il note « Racine étymologique de Stavrogin ». Stavrogin, c'est le personnage de Dostoïevski. Il écrit « Stavros, la croix ». La preuve qu'il essaie de comprendre la sémiotique d'un personnage et sa valeur à partir de l'étymologie. Et enfin, je ne pouvais pas le rater. C'est une des phrases les plus célèbres de Camus. C'est son concept central, « La révolte ». Pour éviter que révolte ne soit dégradée en simple concept abstrait, pour vraiment incarner le concept, que fait Camus ? Il fait ceci. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Voltus, c'est le tour, n'est-ce pas ? C'est le demi-tour. Fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître. Le voilà qui fait face. Autrement dit, la révolte, c'est d'abord en lisant en vérité le mot par son étymon, le fait de se tourner et d'affronter. À partir de là, bon, toutes les interprétations sont possibles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que précisément la chute va représenter une forme là, Camus lui-même en a parlé, une forme de perversion de la révolte. Clamence représente la fausse révolte et sa perversion. Alors, avant de vous donner la façon dont volte-face est employée dans La Chute, regardez le 7F. Dans l'homme révolté, vous savez qu'il consacre une grande partie à ce qu'il appelle la révolte historique, où il étudie les despotes et les tyrans en montrant que tous représentent des formes dégradées, perverties de la révolte. Regardez ce qu'il écrit, 7F. « Totalité close, aristocratie du cynisme, crime universel et volonté d'apocalypse sont les formes perverties de la révolte qui oscillent de l'anéantissement des autres à la destruction de soi. » Clamence oscille entre l'anéantissement des autres et la destruction de soi. Pensez que l'état dans lequel il est à la fin du livre. Et son univers, c'est quoi? C'est une totalité close. Il s'enferme dans Amsterdam et veut y enfermer tout le monde. C'est une aristocratie du cynisme, n'est-ce pas? Il est constamment cynique. Crime universel, puisqu'il estime que tout le monde est coupable. Et volonté l'apocalypse, puisqu'il veut emporter tout le monde dans la chute. Alors, en fait, Clamence a choisi la solution de facilité. Il ne veut pas regarder les choses en face. Et regardez les deux cas où le mot volte-face apparaît dans la chute. En 7D, c'est le moment d'épisode de la noyade. J'entendis le bruit d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net sans me retourner. Alors, sans me retourner, il oublie justement d'affronter les risques que comporte l'épisode et tout ce qui peut s'en suivre. Il a fui. Pour l'épisode du rire, oui, alors regardez, par parenthèse, il était en train de raconter ça au type là, qui l'accompagne, soi-disant. Je m'arrêtais net, mais sans me retourner, mais nous sommes arrivés. Alors, nous sommes arrivés plusieurs fois, le mot est employé. Je vous rappelle qu'arriver, étymologiquement, signifie toucher la rive. C'est ce que, à jamais, quelqu'un qui l'a laissé se noyer ne pourra pas faire. Il faut comprendre arriver ironiquement, bien entendu. On en verra d'autres exemples. Alors, le cas de l'Urir, c'est E. J'étais monté sur le pont des Arts. Face au vert galant, je dominais, autrement dit, il n'est face qu'à lui-même. Je vous rappelle que Clamence est très content de ses exploits amoureux et sexuels. Il est face au vert galant, c'est-à-dire Henri IV. Vous savez ce que veut dire vert galant. Je dominais l'île. J'allais allumer une cigarette. La cigarette, alors on attend tous du condamné. Non, c'est la cigarette de la satisfaction. Quand un rire éclata derrière moi, surpris, je fis une brusque volte-face. Mais il n'y avait personne. Croit-il ? Parce que s'il avait été courageux, il serait resté face au rire et il aurait affronté justement le danger de ce qu'il attendait. Il n'y avait personne. Je me retournai vers l'île et de nouveau, j'entendis le rire. Je restais là, immobile. Autrement dit, il a fait non pas un demi-tour, il a fait un tour complet. Pour revenir à la situation initiale, il refuse précisément de se révolter. Il va choisir la solution de la catastrophe générale en entraînant tout le monde dans sa chute. Alors, je passe au point suivant, dont l'étymologie comme forme de l'anticatastase où toute chance n'est jamais que chute. Alors, c'est là qu'on va voir dans le détail comment est traité le mot chance. Alors, j'ai mis tout d'abord sous la série 8. Il faut que vous en soyez conscient. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais là, il y a dans la chute 33 occurrences de chance et 28 occurrences d'occasion pour 4 occurrences d'accident. Ce sont tous des mots qui sont faits sur cadere latin. La chance, c'est le fait de tomber. L'occasion, c'est ce qui tombe. Et l'accident, c'est ce qui arrive, mais au sens de tomber. Bien, tous ces mots sont employés, évidemment, avec un double sens. Or, dans l'œuvre de Camus, avant la chute, vous avez des emplois qui sont simples et positifs de chance. Regardez, ou d'occasion. Regardez en 8A. La pente la plus naturelle de l'homme, c'est de se ruiner, et tout le monde avec lui. On le voit avec Clamence. Que d'efforts démesurés. Pour être seulement normal, l'homme n'est rien de lui-même, il n'est qu'une chance infinie. mais il est le responsable de cette chance. Que sa volonté, sa conscience, son esprit d'aventure l'emporte, et la chance commence de croire. Autrement dit, la chance est l'occasion, c'est la charité camusienne, c'est la façon qu'il a de vous tirer de l'absurde et vous permettre de dépasser la finitude de votre condition. Regardez en 8b, mettre à mort un être, c'est supprimer sa chance de perfection. Dans la peste, je suis constant de savoir Panelou meilleur que son prêche. Tous les mondes comme ça, dit Tarou le sage. Il faut seulement leur donner l'occasion. C'est mon affaire à moi dans la vie de fournir des occasions. Eh bien, vous renversez la formule, et au lieu de Tarou, vous avez Clamence, bien entendu, qui ment sur la chance. Voilà, même chose en 8D, bien entendu. Alors, regardez la chute. Tout d'abord, c'est exquipite absolument terrifiant hein, de la chute que je vous relis, c'est le 9A. Ô jeune fille, jette-toi encore dans l'eau pour que j'aie une seconde fois la chance de nous sauver tous les deux. Une seconde fois, hein, quelle imprudence. Supposez, cher maître, qu'on nous prenne au mot. Il faudrait s'exécuter. Brrr, l'eau est si froide. Mais rassurons-nous. D'ailleurs, voyez qu'il parle non pas de deuxième chance, mais de seconde, parce qu'il sait que de toute façon, la série est définitivement fermée. Hein. Attention, le moindre mot a son pouvoir symbolique ici. Hein. L'eau est si froide, mais rassurons-nous, il est trop tard maintenant. Il sera toujours trop tard, heureusement. C'est-à-dire qu'il préfère sa lâcheté, il préfère la solution de la chute où il entraîne tout le monde, plutôt que d'envisager la possibilité de devoir vraiment se révolter. Il n'est donc de chance dans la chute que la chute, bien entendu. Alors, regardez page 3. Je vais passer à un texte, c'est du point de vue du maniement des mots le plus éblouissant de la chute. Vous allez voir qu'il est dominé par la chance et l'occasion, justement. Alors, regardez. 9b. Je le lis, je ne peux pas résister au plaisir de le lire en entier. C'est un chef-d'œuvre, vous allez voir. La politesse me donnait de grandes joies. Si j'avais la chance, certains matins, de céder ma place dans l'autobus ou le métro, à qui la méritait visiblement. Alors c'est dégoûtant. Hein. Il faut faire attention à tous les mots, parce qu'en même temps qu'il semble défendre des choses, il accuse indirectement. À qui la méritait visiblement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui, sans arrêt, essaient de se faire voir. Il ne dit pas qu'il a mérité, évidemment, qu'il a mérité visiblement. Autrement dit, il y a une comédie sociale qui cherche obligatoirement à se faire revoir. Je reviens à parenthèse. De ramasser quelque objet qu'une vieille dame avait laissé tomber et de le lui rendre avec un sourire que je connaissais bien, ou simplement de céder mon taxi à une personne plus pressée que moi, ma journée en était éclairée. Je me réjouissais même, le pervers, il faut bien le dire, de ces jours où, les transports publics étant en grève, j'avais l'occasion d'embarquer dans ma voiture, au point d'arrêt des autobus, quelques-uns de mes malheureux concitoyens empêchés de rentrer chez eux, quitter enfin mon fauteuil au théâtre pour permettre à un couple d'être réuni, placer en voyage les valises d'une jeune fille dont le filet placé trop haut pour elle était autant d'exploits. Alors attention à cette phrase. Était autant d'exploits que j'accomplissais plus souvent que d'autres parce que j'étais plus attentif aux occasions de le faire et que j'en retirais des plaisirs mieux, plus savourés. Était autant d'exploits que j'accomplissais plus souvent que d'autres. La cause est toute simple, l'effet est génial. Hein. La cause est toute simple, c'est la syntaxe elliptique de nos tours comparatifs. Quand je vous dis que j'accomplissais plus souvent que d'autres, que veut dire d'autres ? Est-ce que c'est j'accomplissais ces exploits plus souvent que d'autres personnes, je me mettais en avant, ou est-ce que j'accomplissais cet exploit plus souvent que je n'aurais pu accomplir d'autres exploits ? Et bien entendu, c'est une dénonciation cachée de sa propre lâcheté. Il a laissé, bien entendu, la jeune fille se noyer. Et si vous remontez à ce moment-là dans le texte, vous vous apercevez qu'en filigrane, il y a quantité de quelque chose, il y a une quantité de signes qui absolument renverse et ridiculise son attitude pseudo-charitable, notamment, c'est terrifiant, l'histoire de la jeune fille. Je relis, il dit... Quitter enfin mon fauteuil, placer en voyage les valises d'une jeune fille dont le filet placé trop haut pour elle. Mais enfin, le filet, c'est ce avec quoi on repêche les noyés. Et par une ironie du sort absolument tragique, le filet, regardez, il est placé trop haut pour elle. C'est une mascarade tragique, bien entendu. En réalité, il n'y a d'autre chance dans la vie que tout ce qui promet la chute. La chute est toujours au bout du destin. Et elle est inscrite dans la langue, bien évidemment. C'est la langue qui nous le dit. Voilà. J'espère avoir été convaincant. Alors, on va continuer maintenant avec quelques exemples. Je ne peux pas tout dire. Oui, je suis très bavard. Je ne peux pas tout dire. J'ai essayé de choisir quelques exemples qui sont absolument étonnants pour vous faire comprendre, je pense, à la fois la portée éthique du discours de Clamence et l'exceptionnel travail de Camus, la haute maturité du style de Camus à ce moment-là. Alors, je vous ai marqué la mémoire cachée des signes où oui, j'ai refait la formule de Jean Poyant. Vous savez, le livre célèbre de Jean Poyant qui s'appelle « La terreur dans les lettres ». Clamence, c'est la terreur dans la lettre parce que l'étymologie l'oblige à nous oblige à prendre le mot à la lettre et il signe notre destin, bien entendu. Hein, il nous condamne obligatoirement. Alors, voyons pour commencer... Oui, l'exemple 10A, je vais vous le lire. Alors, j'y ai mêlé deux choses. Bon, il y en a une qui est apparentée à l'étymologie, mais qui n'en est pas. Il faut que vous fassiez très attention dans la chute. C'est ça qui est étonnant, parce que la plus petite monnaie lexicale prend une dimension considérable, et notamment ce qu'on appelle, vous savez, les appuis du discours. Ces mots vides de sens qui nous servent sans arrêt à marquer notre discours, du type, vous allez voir, « allons » ou « allez », ou bien « tenez ». Combien de fois par jour on dit « tenez », par exemple ?« Tenez ». Eh bien, ces mots, ces pauvres mots, sont totalement revités. Vous allez voir comment. Alors, « allons » de manière simple, « tenez » de manière plus complexe. Je vous lis le passage 10A. « Vous, par exemple, mon cher compatriote, pensez un peu à ce que serait votre enseigne. Vous vous taisez ?« Allons ». « Vous me répondrez plus tard. » Mais, alors je m'arrête là, on va commencer tout de suite. Le principe du bonheur pour Clamence, c'est justement de n'avoir aucune entrave et de pouvoir librement aller. Et le malheur pour lui, c'est lorsque, précisément, tout va s'arrêter. Regardez en 10b, il dit « Le sentiment du droit, la satisfaction d'avoir raison, la joie de s'estimer soi-même sont des ressorts puissants pour nous tenir debout ou nous faire avancer. Cette conviction m'a soulevé longtemps au-dessus du train quotidien et j'ai plané littéralement pendant des années. J'allais de fête en fête. Je courais ainsi, sans savoir où m'arrêter, jusqu'au jour, jusqu'au soir plutôt, où la musique s'est arrêtée. » Autrement dit, chaque fois que Clamence se dit « allons dans la chute », ou à titre personnel, ou en y associant son interlocuteur, c'est d'une ironie effroyable. Parce qu'en réalité, il sait qu'il est en train, par son discours, de paralyser son interlocuteur. C'est ce qu'il cherche. Alors. Autrement dit, le « allons » est un des exemples les plus forts d'ironie qui soit dans la chute. Alors je continue le « allons », vous me répondrez plus tard. « Je connais la mienne, en tout cas, une face double. » Bon, ça c'est connu. « Un charmant Janus et au-dessus, la devise de la maison. » Ne vous y fiez pas. Sur les cartes, Jean-Baptiste Clamence, comédien. Tenez, peu de temps après le soir dont je vous ai parlé, j'ai découvert quelque chose. Quand je quittais un aveugle sur le trottoir où je l'avais aidé à atterrir. On aide à atterrir les gens qui d'abord étaient dans l'eau, bien évidemment. Là aussi, à atterrir. J'étais à la ligne, je le saluais. Ce coup de chapeau ne lui était évidemment pas destiné. Il ne pouvait pas le voir. À qui s'adressait-il ? Au public. Après le rôle, le salut. Pas mal, hein ? Pour la modestie, j'étais imbattable. Il faut le reconnaître humblement, mon cher compatriote, j'ai toujours crevé de vanité. Moi, 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 voilà le refrain de ma chère vie. Même, alors attention, même dans les domaines où il était facile de vérifier mon infériorité, comme le tennis, par exemple, où je n'étais qu'un honnête partenaire, il m'était difficile de ne pas croire que si j'avais eu le temps de m'entraîner, je surclasserais les premières séries. Je ne me reconnaissais que des supériorités, ce qui expliquait ma bienveillance et ma sérénité. Quand m'occupais d'autrui, c'était pure condescendance, en toute liberté, et le mérite entier m'en revenait. Je montais d'un degré dans l'amour que je me portais. Alors... Bon, il aurait pu citer n'importe quel jeu, bien entendu. Et il y a un jeu où il se croit plus fort que les autres, c'est le tennis. Et au moins 30 fois dans la suite, n'est-ce pas, il s'adresse à son interlocuteur en lui donnant un exemple en disant « Tenez, je vous rappelle d'où vient tenez. » Et comment s'est fait le va-et-vient ? Je vous l'ai mis au-dessous. Le mot « tennis » est l'adaptation au code de l'anglais de l'impératif « tenez » que l'anglais a emprunté au français pour désigner au départ le jeu de paume. La forme « tenets » apparaît en anglais au XIVe siècle, avant que le mot « tennis » nous revienne. Autrement dit, chaque fois qu'il dit « tenez », Clamence, eh bien, il vous envoie une balle avec l'assurance qu'il y aura au moins quelque chose que vous n'aurez pas compris. Hein, c'est qu'il y a en réalité un piège à l'intérieur du mot. Et faites bien attention, le mot est très, très régulièrement employé. Bon, je passe rapidement à un autre exemple, page 4. Donc, l'exemple 2. Oui.
Est-ce que l'invention, par exemple, de Pajot est le signe de la singularité, et comme le jeu de pommes, c'est un jeu qu'on renvoie soi-même,
oui.
Il n'est pas son propre miroir,
on le commande. Oui, mais le jeu de pommes a été supplanté par le tennis. Et quand il part du jeu, il part du tennis. Hein. Donc, je pense que... Non. Non, c'est surtout la racine étymologique qu'il faut retenir. Alors, attention toute particulière de mes collègues Vincent, qui a justement, il y a quelques années, écrit un article tout à fait remarquable sur l'étymologie de « obliger ». Alors, j'ai cherché dans mes archives, je t'ai dit, je n'ai pas retrouvé, mais je me rappelais quand même l'article. Alors, c'est le début de la chute. « Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun ?» Donc, en haut de la page 4. « Je crains que vous le sachiez vous faire entendre l'estimable gorille qui préside le destin de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, et bien entendu, à prendre littéralement, il ne désirera pas que vous il ne comprendra pas, excusez-moi, il y a un lapsus, que vous désirez du genièvre. Voilà. Vous espérez qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet. Il se hâte avec une sage lenteur. Bon, festina lente. Le texte est mité, si je puis dire, d'allusion et de réfection. On en parlera si on a le temps tout à l'heure. De réfection et ce qu'on appelle d'allusion en rhétorique, notamment à des proverbes, à des paroles littéraires, etc. Il y a une espèce de code culturel sous-jacent dont sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est festina lente, hâte-toi latement. C'est dans les pages roses du Larousse. Non. Alors regardez, avec une sage lenteur, vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Mais je me retire, monsieur, et c'est le début, hein, heureux de vous avoir obligé. L'endroit du mot, c'est quoi ? Heureux de vous avoir obligé, c'est de vous avoir rendu service. L'inverse, c'est quoi ? C'est heureux de vous avoir, non pas rendu service, mais asservi. Parce qu'en réalité... Dès le départ, il se met sur un même terrain que son interlocuteur et petit à petit, il l'attire vers lui et il va le prendre dans ses raies. Donc, il va l'entraver véritablement et obliger, étymologiquement, obliger dit bien à servir. Et c'est fait sur ligare et ligere. Au départ, dans la Rome antique, lorsque quelqu'un était accusé de dette, le châtiment, et Vincent me disait que c'était peut-être une forme édulcorée de quelque chose de beaucoup plus dur, le châtiment consistait à lui mettre des liens autour des poignets et autour des chevilles, même, je crois. Donc, obligerer, c'est entraver de liens. Et tout le discours de Clamence, qui est une véritable stratégie de l'araignée, consiste à enfermer l'autre dans l'évidence de sa culpabilité et donc de le paralyser. Vous voyez, donc ça commence dès le début. Obligé à l'envers, obligé à l'endroit. Trompeuse hauteur. Alors, vous savez que, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, Clamence ne se supporte que sur des positions élevées. Regardez en 12b. « Je ne me suis jamais senti à l'aise que dans les situations élevées. Jusque dans le détail de la vie, j'avais besoin d'être au-dessus. Je préférais l'autobus au métro, les calèches au taxi, les terrasses aux entresols. La vérité, c'est que je me force à aimer ces canaux. Ce que j'aime le plus, c'est la Sicile. Vous voyez bien. » Alors, le « vous voyez bien » qui est à double sens. « Et encore du haut de l'Etna, dans la lumière, à condition de dominer l'île et la mer. Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation des sommets. » Alors, vocation qui est aussi une réviviscence étymologique ironique, parce que vocation, Hein, ça veut dire appel. Et je vous signale que l'épisode de la noyade se terminera par les mots « cet appel que je n'avais pas entendu ». Donc vous voyez, il y a anguille sous toutes les roches. C'est tout à fait étonnant. Alors, à propos de cette position élevée, je reviens au 12A, regardez. « J'ai vécu longtemps dans l'illusion d'un bonheur général, alors que de toutes parts, les jugements, les flèches et les railleries fondaient sur moi, distrait et souriant. Du jour où je fus alerté, la lucidité me vint. Je reçus toutes les blessures en même temps et je perdis mes forces d'un seul coup. » L'univers, alors comme on en rencontre à toutes les phrases, ça en est un de plus. L'univers, je vous rappelle que « uni versus », ça veut dire « tourner vers l'un ». Et Clamence dira à un moment « je ne pouvais vivre qu'à condition que tous fussent tournés vers moi ». Autrement dit, quand il parle de son univers, c'est parce qu'il en est le centre et que tout le monde fait cercle autour de lui. Encore une réviviscence étymologique. Ce n'est pas celle qui va nous intéresser, mais je voulais vous la signaler. « L'univers entier se mit à rire autour de moi. Mes semblables cessaient d'être à mes yeux l'auditoire respectueux dont j'avais l'habitude. » Le cercle dont j'étais le centre se brissait et il se blassait en une seule rangée comme au tribunal. Alors, je reviens sur alerté. Quand je fus alerté, on l'a complètement oublié, c'est totalement démotivé, exactement comme alarme, c'est au départ al-armi, aux armes. Alerte, c'est alerta, c'est-à-dire courait vers le sommet. C'est le cri qu'on prononçait quand il y avait un danger dans les combats et il fallait trouver refuge sur un promontoire, sur une situation élevée. Parce que c'est fait sur le mot, je vous ai mis le renseignement à la suite, c'est fait sur le mot, sur l'adjectif erto, dont on a tiré erta, qui veut dire escarpé, et c'est le participe passé de ergere en italien, dressé, et c'est bien sûr erigere en latin. Donc, alerte, c'est sur le sommet. Quand je fus alerté, eh bien, il est encore sur le sommet, mais évidemment, qu'est-ce que c'est ? C'est le prémisse de la chute. Vous voyez, le mot est obligatoirement relu en fonction de sa valeur originelle. Vous n'avez pas marre ? Je peux continuer un peu ? Bon, alors, je passe alors à un des plus beaux. C'est le 3, c'est l'histoire de la chaise longue et ce que j'ai appelé l'impossible passage. Alors, c'est un des plus émouvants, je trouve, des plus émouvantes réinventions avec Lohengrin, qu'on va voir après, de Camus. Alors, je commence par lire le 13b. Il dit, c'est le spectacle de son bar Mexico City, hein, « Le centre des choses est ici, bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. En tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent aller plus loin. Ils viennent de tous les coins de l'Europe et s'arrêtent autour de la mer intérieure sur la grève décolorée. Ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transi. Ils viennent demander à toute langue du Genièvre à Mexico City. Transi parce qu'il fait froid, bien entendu. Mais je ne sais pas si vous avez noté, en réalité, ce que leur interdit Clamence, c'est la possibilité d'un passage. Ils viennent jusqu'au bord de la mer en espérant pouvoir passer. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous avez derrière ? Vous avez le mythe de Caron qui permet de passer justement au-delà et de se sauver de sa condition d'âme perdue. Et bien Clamence leur interdit le passage. Hein, il les attend. Et bien évidemment, transi jusqu'à la fin du XVIIe siècle, transi a désigné ceux qui passaient, c'est-à-dire transirer, c'est passer à travers. Les transis, c'était ceux qui étaient mourants. Et vous vous rappelez, Laurent, j'ai eu l'occasion d'utiliser le mot transi il n'y a pas longtemps pour une certaine notice. Le transi, c'est ce qui a remplacé le gisant à l'époque de la Renaissance et du Baroque. C'était un corps que l'on voyait en décomposition, sculpté au-dessus du tombeau. Alors, transi est à comprendre évidemment comme la plus formidable ironie qui soit, puisque précisément ça veut dire celui qui passe, fût-ce dans la mort pour se libérer, Clamence leur interdit le passage. Et je ne vous raconte pas d'histoire, parce qu'en réalité, le châtiment qu'il impose à tout le monde, c'est celui qu'il a d'abord vécu. Et c'est l'anecdote qui est juste avant, c'est-à-dire le 13A, que je vais lire en même temps. Asseyons-nous sur ces transatlantique. Alors, ça commence par la chaise longue, vous voyez, jusqu'où ça va. Bon. Quelle brume ! J'étais resté, je crois, sur le chemin du malconfort. Et voici l'anecdote. Alors, bien entendu, le choix de transatlantique pour chaise de longue n'est pas un hasard, vous allez le voir. Un jour, au cours d'un voyage que j'offris à une amie, sans lui dire que je le faisais pour fêter ma guérison, je me trouvais à bord d'un transatlantique, le bateau qui passe l'Atlantique, sur le pont supérieur, naturellement. Soudain, j'aperçus au large un point noir sur l'océan couleur de fer. Je détournai les yeux aussitôt. Mon cœur se mit à battre. Quand je me forçais à regarder, le point noir avait disparu. J'allais crier, appeler stupidement à l'aide quand je le revis. Il s'agissait d'un de ces débris que les navires laissent passer derrière eux. Pourtant, je n'avais pu supporter de le regarder. J'avais tout de suite pensé à un noyé. Je compris alors, sans révolte, comme on se résigne à une idée dont on connaît depuis longtemps la vérité, que ce cri qui, des années auparavant, avait retenti sur la scène derrière moi, n'avait pas cessé de cheminer à travers, dans le monde, à travers l'étendue illimitée de l'océan, et qu'il m'y avait attendu, du coup il va attendre les autres, jusqu'à ce jour je l'avais rencontré. Je compris alors qu'il ne cesserait de m'attendre sur les mers et sur les fleuves, partout où se trouverait l'eau amère de mon baptême. Et je vous rappelle que baptême en grec, c'est baptisein, et ça veut dire plonger dans l'eau. Bon, ça, c'est un des plus évidents, encore un étymologisme. Alors, pourquoi il interdit aux autres de passer, de transirer? Parce que le jour où il a pris un transatlantique, eh bien, le voyage s'est arrêté au milieu. Il a compris que le souvenir le poursuivait et que désormais, il ne pourrait plus continuer librement sa vie. Il a été arrêté. Il arrête les autres. Il ne veut pas se révolter. Il préfère étendre le châtiment et il arrête les autres. Voilà. Donc, très, très bel exemple. C'est un des plus beaux de la chute. Et enfin, en 2-1-4, alors pardonnez-moi le calembour honteux que j'ai fait, mais pourtant, vous allez voir, il s'impose. J'ai marqué le chevalier au signe SI et les feux de signalisation CY, etc. Vous allez voir pourquoi c'est tout à fait justifié, je pense. Alors, c'est une des inventions les plus troublantes de la chute, une des pages de la chute qu'on a le plus commentée. Et on s'est extasié, bien sûr, en apparence, c'est très beau, sur son lyrisme, sa plastique. Camus est un grand prosateur, on le sait, sans se rendre compte que l'envers des choses était peut-être un petit peu moins glorieux que l'endroit poétique qu'il nous présentait. Alors, je vais vous le lire. Le texte est un petit peu long. Je concentrerai mon analyse. Je vous lis le bas de la page 4 et donc page 5. C'est le texte connu sous le nom du Nocturne hollandais. Et je vous signale, alors je ne l'ai pas mis sur l'exemplier, sinon on ne l'en sortirait plus, que c'est un texte qui a obsédé Camus, puisque les 5 ans qui ont précédé la chute, il a fait un voyage en Écosse et il a fait 2 voyages en Hollande et on a dans les carnets des brouillons de ce nocturne hollandais où apparaît une fois, la dernière, la métaphore du cygne. Vous allez voir, les bicyclettes des Hollandais sont comparées au cygne, mais où n'apparaît pas encore Lohengrin. Lohengrin sera uniquement dans la chute et c'est le couronnement de ce système sémiotique qui, vous allez voir, est absolument stupéfiant. Alors, je vous lis le texte. Au 14A, donc, « Oh, pardon, madame, elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, ainsi tard et malgré la pluie, qui n'a pas cessé depuis des jours. Heureusement, il y a le genièvre, la seule lueur dans ses ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met en vous. J'aime marcher à travers la ville le soir, dans la chaleur du genièvre. Je marche des nuits durant, je rêve ou je me parle interminablement. Comme ce soir, oui. Et je crains de vous étourdir un peu, comme moi, exactement. Merci, vous êtes courtois. C'est le trop-plein. Dès que j'ouvre la bouche, les phrases coulent. Ce pays m'inspire, d'ailleurs. J'aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maisons et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime, car il est, envers et endroit, il est double. Il est ici et il est ailleurs. Mais oui, à écouter leurs pas lourds sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre leurs boutiques, pleines de harengs dorés et de bijoux couleur de feuilles mortes, vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir. Je vais aller trop vite. Vous êtes comme tout le monde, vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands, comptant leurs écus avec leurs chances de vie éternelle, et dont le salarisme consiste à prendre parfois, couverts de larges chapeaux, des leçons d'anatomie. Alors là, je rigole, si on en parlera tout à l'heure, si on a le temps. Tout le monde, il n'y a pas un livre sur la chute de Camus qui nous ait dit « attention, allusion ». Oui, pour ne pas l'avoir, il faut être inculte. Hein. C'est bien entendu la leçon d'anatomie de Rembrandt. Seulement, attention, tout envers peut dans la chute cacher un autre envers. Tout le monde a vu la leçon d'anatomie, mais personne n'a fait attention aux écus et aux bijoux couleur de feuilles mortes. Sur votre exemplier, vous l'avez à la fin. En réalité, la principale allusion, c'est à un tableau de Vermeer qu'on appelle la peseuse d'or, qui est en réalité une vanité, où on voit la femme peser des écus d'or et des bijoux, avec derrière elle la représentation du jugement dernier, qui fait de ce tableau une allégorie de la psychostase. Et que fait Clémence lui-même ? Il convoque tout le monde à son tribunal pour condamner tout le monde. Tout le monde a des âmes pourries. Tout le monde va à l'enfer. Donc la véritable allusion, c'est pas Rembrandt, c'est Vermeer. C'est celle qui est cachée. N'oubliez pas qu'une des activités de Clémence, c'est d'avoir caché chez lui un tableau qui est volé. Autrement dit, le texte met en abîme l'activité du recel de tableau. C'est le fameux panneau des juges intègres qu'il a dans son placard puisqu'il veut condamner la justice. Eh bien, il fait pareil dans son texte. La véritable allusion, c'est celle la plus profonde qui est cachée. Je continue. Excusez-moi, je ferme la parenthèse. Je veux trop en dire. Alors, vous vous trompez, donc, etc. La Hollande, alors voilà. Voilà le passage clé. La Hollande est un songe, monsieur, un songe d'or et de fumée, plus fumeux le jour, plus doré la nuit, et nuit et jour ce songe est peuplé de Lohengrin, comme ceci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haut guidon, signe funèbre qui tourne sans trêve dans tout le pays autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leur nuée cuivrée, ils roulent en rond, ils prient somnambules dans l'encens doré de la brume. Ils ne sont plus là. Ils sont partis à des milliers de kilomètres vers Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie dont ils ont garni toutes leurs vitrines et qui errent en ce moment au-dessus de nous avant de s'accrocher comme des singes somptueux. Alors, par parenthèse, Camus anticipe l'Eris, hein, parce que de la même manière que le signe SEI va devenir le signe CY, le signe peut devenir le singe, comme aussi, vous connaissez l'Eris, signe singe, comme aussi le signe peut donner les enseignes. Les enseignes est un des grands thèmes, bien évidemment, de la chute, puisque l'enseigne, c'est la marque d'un signe, bien évidemment. Bon, je refais la parenthèse. Et qui est dans ce moment, donc, comme des singes somptueux, aux enseignes et aux toits en escalier, pour rappeler à ses colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands vers la mer, mais la mer qui mène à Cipago et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. Excusez-moi, je presse vers la fin. Alors, je reviens sur le Lohengrin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte ? En réalité, il est très trompeur. C'est une magnifique, un apparent magnifique morceau de poésie. Mais en réalité, Clémence va comme pénétrer à l'intérieur du rêve des Hollandais. Et le texte est fait, notamment la métaphore Lohengrin, le texte est fait sur les manipulations et les opérations du rêve. C'est-à-dire la compensation, le déplacement, le refoulement et la condensation. En réalité, ce que vous avez avec Lohengrin, c'est le rêve des Hollandais qui sont hantés, comme nous le sommes tous, par la faute et qui tournent en rond, condamnés qu'ils sont dans cet enfer créé par Clémence. Alors, vous allez voir, ça s'explique très, très bien. Je viens à Lohengrin. Alors, pourquoi Lohengrin ? Je vous assure, j'ai lu... Je ne sais combien de commentaires de cette page. On s'extasie sur la beauté de Libage. Le premier, ça a été un grand spécialiste de Camus, au demeurant remarquable. Un Anglais s'appelait Stephen Yulman, qui a dit que La Chute contenait quelques-uns des plus beaux textes poétiques de Clémence, et il donne comme exemple de poésie Lohengrin. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à la poésie. Bon, pourquoi Lohengrin ? Alors, on vous dit à cause du signe. Mais alors, pourquoi le signe ? À cause des bicyclettes. Alors, effectivement, si vous pensez à une bicyclette de profil, vaguement, il y a le guidon, le tube assez long, et puis la roue arrière qui fait comme ça. Autrement dit, de profil, on pense, vous savez, à la fameuse analyse par Jastrow du canard qui est lapin ou du lapin qui est canard, n'est-ce pas ? Le profil de la bicyclette peut représenter un volatile vu de profil avec son cou très long et puis son arrière bombé avec ses ailes. Mais enfin... Si l'aspect phénoménal peut l'expliquer, comme dit Genette, ça, ce n'est que la motivation qui cache la fonction. Le sens est bien évidemment ailleurs. Alors, pourquoi Lohengrin ? Je vous rappelle la légende, elle est très, très simple, et vous allez vite comprendre. Lohengrin, c'est un opéra de Wagner, hein. Lohengrin, c'est en réalité la légende d'un chevalier du Graal qui est appelé à l'aide par une femme, Elsa de Brabant, qui est accusée injustement d'avoir fait disparaître et d'avoir tué son frère. Donc, l'opéra commence, alors, parce que l'on appelle l'opéra de Wagner, le songe d'Elsa, qui voit en rêve l'arrivée de Lohengrin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte commence par le passage sur Lohengrin. La Hollande est un songe. Il y a 14 occurrences du mot « rêve » dans la chute. Dans cette phrase, Camus avait d'abord écrit « La Hollande est un rêve ». Il a biffé « rêve », il a marqué « songe ». D'abord parce que le mot « rêve », vous allez vite le voir, est connoté négativement dans la chute. C'est une manière, le rêve, d'échapper à sa culpabilité. Donc il trompe un peu l'espion, si vous voulez. « Songe » garde un aspect vaguement poétique. Mais surtout, l'arrivée de Lohengrin dans l'opéra de Wagner est annoncée par un air qu'on appelle traditionnellement « le songe d'Elsa ». Autrement dit, la métaphore filée ne va pas de bicyclette à Lohengrin, elle commence avec songe. Songe annonce Lohengrin qui est en train de la bicyclette. Et donc, alors, il va, que faire Lohengrin ? Il va sauver une femme qui était en danger. Autrement dit, il est le parangon du chevalier servant qui a accompli, lui, ce que Clémence et tout le monde, puisque, comme le disait un ami de Camus, nous avons tous, au fond de nous, une jeune fille que nous n'avons pas sauvée de la noyade, n'est-ce pas ? Donc, ils ont autour de lui cette faute que Lohengrin, lui, n'a pas commise. Alors là, c'est le travail compensatoire du rêve, puisque le rêve, bien évidemment, vous propose ce que, à l'inverse de votre faute, ce que vous n'avez pas su faire. Mais c'est un peu plus douteux que ça, dès le premier niveau, parce que Lohengrin accepte d'épouser Elsa, qu'il a sauvée, à une condition. C'est qu'il vient de l'endroit mystérieux, elle ne lui demande pas qu'il ait à révéler son origine. Alors, on n'est pas à la soirée des Césars, je peux y aller, je ne risque rien. La femme va le trahir parce qu'elle va l'obliger à dire d'où il vient. Et à ce moment-là, il est condamné, il est obligé de repartir. Autrement dit, Lohengrin, c'est celui qui sauve une femme, mais en dessous, il y a l'idée que c'est la femme qui nous perd. Autrement dit, vous voyez que la culpabilité est assez bien partagée. Premier niveau. Deuxième niveau, il faut être sourd et aveugle. Tous ces gens, les Hollandais, ils filent le long des canaux et ils tournent sans trêve autour des mers. Mais juste à côté de Lohengrin, chez Wagner, il y a une autre légende que, hélas, nous connaissons sous le titre français du vaisseau fantôme, mais dont le titre est « Le Hollandais volant ». Et quelle est l'histoire du Hollandais volant ? C'est l'histoire d'un homme qui, pour avoir accusé Dieu par un soir de tempête, a été maudit. Il a été maudit à une condition. Il sera sauvé si une femme accepte de mourir d'amour pour lui, le vieux thème wagnérien de la rédemption. Cette femme, il va la trouver dans une personne qui s'appelle Senta. D'ailleurs, de Senta à Elsa, vous entendez, ça consonne. Que fait Senta ? Eh bien, voyant le Hollandais repartir vers sa malédiction, elle monte sur une falaise et elle se jette à l'eau. Autrement dit, la chute est réécrite à l'envers, ce que le vaisseau fantôme vous raconte. À l'endroit, il y a deux chutes. L'une est cause de salut, l'autre est cause de chute et de perdition. Alors ça, c'est le fameux déplacement du rêve. Vous voyez qu'on travestit, bien entendu, les apparences. C'est confondant. Non, c'est deuxième niveau de symbolisation de la métaphore. Enfin, troisième niveau. Bon, j'ai longtemps cherché, un peu hésité, mais il semblait qu'il devait y avoir quelque chose. Il y a On était parti de là tout à l'heure, vous rappelez, je vous avais dit le fameux bar de oui et non, qui était plein de lumières rouges et vertes. Vous avez vu qu'il y a dans le texte, dans le contexte, le rouge, le vert, le néon, la menthe, tout le chromatisme est décliné avec au milieu le blanc, alors qui est le genièvre d'ailleurs, parce que bon, c'est le paradis artificiel qui nous reste, mais on retrouve la même opposition chromatique. Or, en fait, ça renvoie à un épisode, alors la condensation du rêve, un autre épisode de la chute, alors je n'ai pas le temps de le lire, vous le regarderez, il est sur la page 6, mais vous l'avez en mémoire si vous avez lu la chute. Vous savez, c'est un des premiers jours où Clémence découvre sa lâcheté. Sa lâcheté, il la découvre comment ? À un feu rouge. Parce que qu'est-ce qui lui arrive ? Il se retrouve à un feu rouge, le feu passe au vert. Alors pensez à la symbolique de l'arrêt de l'avancée. Il est à un feu rouge, le feu passe au vert. Le motocycliste, ce n'est pas la bicyclette, c'est la motocyclette, le motocycliste qui est devant lui cale et il est donc Clémence arrêté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il descend et il va rosser le motocycliste. Voilà, il y a un plus balèze de lui qui arrive par derrière. Et évidemment, qui prend la défense du pauvre motocycliste. Alors, que fait notre Clémence ? Eh bien, Penaud, parce qu'il l'a trouvé plus fort que lui, il revient vers sa voiture et il s'en va sans rien dire. Autrement dit, l'épisode du feu rouge et du feu vert, outre la symbolique de l'arrêt et bien sûr de la progression, est un des épisodes où il a découvert sa lâcheté, n'est-ce pas ? Et lui qui croyait être au-dessus de tout. Eh bien, Lohengrin, Seigneur. Malgré les apparences, c'est pas une réviviscence étymologique, c'est un calembour étymologique. Autrement dit, c'est une forme d'étymologie poétique. Lohengrin, ça veut dire rouge et vert. Pourquoi ? Alors, je vous ai mis au-dessous du texte du Nocturne les renseignements nécessaires. J'ai perdu ma page. Voilà, c'est page 5. C'est pas une rareté, hein, ça fait partie de la légende de Lohengrin. Bon. Le chevalier Lohengrin, nous le connaissons par le cycle du Graal. Mais il n'était pas à l'origine dans le cycle du Graal. Il a été dans le cycle du Graal à partir du moment où la légende du chevalier a été reprise par le fameux poète médiéval allemand Wolfram von Eschenbach, celui qui a écrit le roman Parsifal, Parsifal étant le père de Lohengrin. Mais Lohengrin vient du cycle du chevalier au lion, donc d'une tradition française antérieure, et, alors c'est ce que je vous ai marqué, le premier nom du chevalier, vous l'avez entre parenthèses, c'est Garin Liloerenc, c'est-à-dire Garin le Lorrain. Alors c'est Garin le Lorrain qui a d'abord été réorthographié par Wolfram von Eschenbach en Lohengrin, Lohengrin, et Lohengrin était tout près, bien entendu, de Lohengrin. Et c'est la tradition populaire qui a refait le nom de Wolfram von Eschenbach, Lohengrin, en Lohengrin, par analogie. Pourquoi ? Parce que dans la tradition populaire, le signe qui vient du royaume des Bords est attaché, bien évidemment, à l'enfer. Hein, et l'enfer, c'est le lieu des flammes. Et la première partie du mot a été refaite sur le modèle du verbe lohen en allemand, qui veut dire flamber, flamboyer. C'est le rouge. Le vert, il est où ? Vous savez comment on dit vert en allemand ? Grün. C'est le paronyme exact de grün. Lohengrin, c'est rouge et vert. C'est un investissement étonnant, vous le voyez, dans cette description du rêve et tout ce qu'elle suppose. Voilà, j'en peux plus, je m'arrête. Et puis je voulais vous laisser un peu de temps pour les questions. Normalement, il devrait y en avoir. Voilà, je précise que c'était surtout pour vous convaincre. C'est une image trop ignorée de Camus. C'est un grand penseur. C'est un homme extraordinairement généreux, un humaniste prodigieux. Mais c'est un des plus grands manipulateurs de signes que notre littérature ait connu au XXe siècle. Et ça, on ne le croit pas. On est resté à l'idée qu'il a un style classique, le grand style, un peu lisse, un peu polissé. Pas du tout. C'est pas ça la vérité de Camus. En réalité, il sonde le langage comme peu de personnes au XXe siècle l'ont fait. Voilà. Bolika, allez-y, s'il y a des questions, je...
C'est un minuscule détail, mais tu disais justement que c'est bourré de références intertextuelles, mais voilà. Je lis dans le très beau portrait là, des Hollandais qui, de leurs rêves, mmh. hein, à la fin, la mer qui mène à Cipango et à ses îles, oui. les hommes, etc. C'est les conquérants de Heredia, non ?
Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout
ouais,
à fait.
Oui, oui, oui.
Il y a pas très loin après, quand il condamne les hommes à son enfer, il dit, vous qui rentrez ici, à Amsterdam, laissez toutefois toute espérance. C'est Dante. Hein. Il y en a à toutes les pages. Il y a toutes les pages, tout à fait. Tout à fait. Oui, alors, à propos aussi de Mexico City. Oui, je voulais vous le dire tout à l'heure, j'y pense, ça en prendra peut-être des questions. Mexico City, il dit au début, vous savez, il reçoit les gens dans un bar, que le tenancier, dit-il, on ne sait d'ailleurs pourquoi, mon œil, appelé Mexico City. Mais en fait, Mexico City, c'est Amsterdam, mais c'est Amsterdam sur la hauteur. Parce qu'il a choisi Amsterdam, puisque c'est fait de canaux en concentrique. Donc pour lui, c'est une image des cercles de l'enfer. Or, je vous rappelle que la ville première de Mexico, il en reste des traces d'ailleurs, était exactement bâtie de la même manière. C'est-à-dire qu'elle offrait un système de canaux extrêmement complexe en cercle autour du palais royal. Seulement Mexico, alors qu'Amsterdam est à hauteur de la mer, Mexico est à 2500 mètres de hauteur. Et comme le dit Clémence, là-haut, je continue encore à régner. Alors, Mexico City, on retrouve là ce qu'a toujours dit Camus. Je ne suis pas un réaliste, tout dans mon œuvre est symbolique. Et le nom Mexico City rentre évidemment dans la sémiotique de la hauteur et de la domination de Clémence. Je rajoute, parce que je voulais vous le dire tout à l'heure, j'y ai pu penser. D'autres questions ? Comment ? Je serais tenté de vous dire oui. Tout a une signification. L'essentiel, c'est de trouver la bonne. Parce que le lièvre est blanc. Et le blanc, c'est la neutralisation de toutes les couleurs. C'est la non-couleur. Donc le blanc serait une manière d'oublier cette terrible opposition entre le rouge et le vert. Et alors, ce d'autant plus si l'on pense que le Genièvre est, parce qu'il y a du Baudelaire aussi ici, hein, bon, est un paradis artificiel, parce qu'il n'y a que l'alcool qui va nous permettre finalement de sortir au moins pour un temps de cet enfer. D'ailleurs, pensez à la fin, bon, Clémence est dans un état lamentable, hein, il souffre de fièvre, il est bourré d'alcool, il est moribond quasiment, mais enfin pour autant, il ne va pas échapper à son calvaire. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais oui. Le blanc, dans ce cas-là, oui. C'est en quelque sorte une tentative désespérée de neutraliser l'opposition des couleurs où il est enfermé. Non. Oui, je sens que vous brûlez de poser une question. Non,
non. Merci. Sur le plan grammatical, le subjonctif, il n'y a que le présent, l'imparfait, le plus que parfait, et le participe passé. Ou le passé simple oui. Non, l'imparfait, le plus que parfait, le présent.
Quand vous parlez du... Je pensais que vous alliez bifurquer vers autre chose.
Oui.
Quand vous parlez du subjonctif, est
il y a
un
quatre temps.
Non, vous parlez d'un mode. Puis après, vous passez au passé simple à l'imparfait. C'est un autre mode qui est l'indicatif.
Hein. Oui, du subjonctif. Subjonctif.
Oui.
Subjonctif.
D'accord.
Dans le subjonctif, il y a quatre temps.
Oui.
Dans le 5C, c'est l'imparfait et le plus que parfait qui est utilisé en littérature pour donner du contenu en 5C.
Je ne vois pas de...
C'est du subjonctif.
Je ne vois pas de subjonctif dans le 5C.
Non.
Le seul subjonctif auquel je pense, là, ça vaut le coup d'en parler, c'est quand, au début, Clémence dit en plein un subjonctif de l'imparfait. T'entends. Et alors, il voit évidemment son interlocuteur, soi-disant, comme il dit, broncher. Et broncher est terrible, parce que broncher, c'est faire un faux pas. Autrement dit, c'est se casser la figure. Encore une chute en puissance, vous le voyez. Alors, c'est intéressant, justement, parce que, bon, il y a cette formule étonnante, Clamont. Parce qu'en plus, là, je suis, si vous voulez, bon, moi, je vous en ai portrait, fait un portrait très, très noir, ça. Mais c'est très, très drôle. Moi, parce que l'esprit féroce de Clamont, c'est un véritable plaisir. Quand il dit « Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas nécessairement qu'on ait les pieds sales, mais enfin, en général, le style, comme la popeline, dissimule de l'eczéma. Hein. » Ce qui vaut aussi pour Camus, qui vénérait absolument les classiques, le grand style et compagnie. Enfin, donc, il sait en voir l'envers et l'endroit. Alors, le subjonctif, c'est ça. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ce code culturel bourgeois que, dès le départ, dans son langage, il impose à son interlocuteur, ou son prétendu interlocuteur, de façon à en faire un semblable de lui-même et à l'entraîner dans la même condamnation. Cela dit, bon, alors on a dit tout est son contraire sur une espèce de colloque à une voix. Mais bien évidemment, il est symbolique, puisque, vu la philosophie qu'il défend, Clamont ne peut parler que de lui-même à lui-même. Il est condamné à un solipsisme terrible. Et comme le dit Camus, il dit très bien que c'est une forme théâtrale, mais dont la particularité est imposée par le sujet. Vous savez bien que le style est aptum. Donc à chaque sujet correspond un style particulier. Et la forme de soliloque totalement enfermée était prodigieusement signifiante, parce que c'est la preuve du solipsisme du personnage et de la solitude dans laquelle lui-même il s'enferme, évidemment. Oui, Laura.
Oui, j'ai lu qu'on interprétait le nom donné au personnage Clamence à partir de la formule célèbre « Vox in deserto Clamence », c'est-à-dire « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Voilà. Bon, alors ça renvoie, je suppose, au solipsisme dont tu viens de parler.
Oui, bien sûr.
Mais n'est-il pas possible d'y voir aussi une allusion, alors plus subtile, à ce qui a fait l'essence de ton propos, c'est-à-dire je bourre mon bouquin de toutes sortes de subtilités extrêmement délicates, ouais. Et qui est-ce qui va les voir? Je ne suis pas la voix qui crie dans le désert.
J'espère que non, j'espère que je n'ai pas crié dans le désert ce soir. Bon, il y a toujours un prophète pour apporter la vérité, si j'ai pu dire. Non, peut-être, ça, je n'irai pas jusque-là, bon, parce que bon, je pense que la chute sera lue différemment selon le public qui la prend, mais je pense, ne voyez pas, ne croyez pas que je tombe dans l'aristocratie du cynisme, comme dit l'autre, mais pour un public averti, un petit peu attentif, je pense que sinon toutes, au moins beaucoup de réflexions étymologiques ne peuvent pas passer inaperçues. Il faut simplement avoir la patience de lire, ce que notre époque a peut-être un peu perdu. Hein. Mais bon, transatlantique, on ne peut pas passer, on ne peut pas passer à côté. Obligé, même chose. Je pense que ça s'impose. La chance, pareil, n'est-ce pas? Bon, donc, non, mais il faut bien penser que la plus haute littérature est nécessairement un investissement exceptionnel dans le potentiel sémiotique des mots. Donc il ne faut pas s'étonner quand même qu'on trouve de pareilles manipulations. Hein. Voilà. Oui, donc oui, le prénom Jean-Baptiste, c'est le plongeon, ça se passe de commentaires. Hein. Et c'est Vox Clamontis in deserto, c'est en réalité le Jean. Ce sont les Lévites qui envoient une troupe demander à Jean revenant à Jérusalem s'il est bien le Christ lui-même ou s'il est un prophète. Et Jean répond « Non, je suis la voix criant dans le désert. Vox Clamontis ». In deserto. Voilà. C'est un épisode très précis de l'évangile de Jean. Mais bon, et bien entendu, il est la voix criant dans le désert parce que de toute façon, il a fait le vide autour de lui. Ça, c'est le sens auquel on pense. C'est d'ailleurs le sens de traduction de l'expression. Hein. Une voix qui crie dans le désert, c'est que personne ne l'écoute. Vous verrez à la fin, j'ai rajouté quelques exemples complémentaires. J'ai même fait des styles convergents, n'est-ce pas? Pour vous montrer, j'ai tout centré sur l'étymologie, mais pour vous montrer que la problématique de l'envers et de l'endroit irradie tout, notamment, alors, j'insiste là, hein, parce que Laurent, tu m'as dit bon, des délicatesses, bon, des choses qui échappent peut-être à une culture moyenne, mais des exploits que j'accomplissais plus souvent que d'autres, pas besoin de sortie de polytechnique ou de normal sup pour s'en rendre compte. C'est la syntaxe la plus bête qui soit. Et le génie de Camus est peut-être encore plus grand là parce que c'est une formidable ambiguïté que dans Lohengrin, si tu veux. Ou regardez cet exemple. Et il y en a d'autres. Hein. Alors je vous laisse le plaisir de les découvrir par vous-même, si je vous ai donné le goût de lire ou de relire la chute. Regardez l'exemple que j'ai mis en 16. C'est confondant. Hein. Il dit ceci. « Je serai certainement ici demain et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin, il est en train de raccompagner son interlocuteur. Eh bien, mais verriez-vous un inconvénient, ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au pont ?» L'ambiguïté est béante, c'est un gouffre. Et comme toujours en français, quand l'ambiguïté a une source grammaticale, c'est dans le neutre qu'elle se situe. Le neutre est un monstre. Hein ? Tous les quiproquos du théâtre sont faits sur le neutre. Ce serait le plus simple. Qu'est-ce que c'est qui serait le plus simple ? Nous pensons le démonstratif neutre, comme on dit, vous le savez, cataphorique. Autrement dit, il annonce un référent, un antécédent qui se trouve après lui. Ce serait le plus simple, c'est-à-dire que je vous accompagne jusqu'au port. Mais en réalité, ce serait le plus simple pour envoyer à « verriez-vous un inconvénient ?» Parce que si vous voyez un inconvénient, vous qui êtes un interlocuteur, vous allez me quitter, vous ne me verrez plus, et ce sera le plus simple, parce que je ne pourrai pas vous exposer la duplicité de la créature. Autrement dit, si vous me quittez maintenant, vous êtes sauvé. Donc en réalité, hein, le fonctionnement du démonstratif est à double détente. Et je trouve que la seconde interprétation, elle est plus cachée. Mais elle n'est pas moins riche. Hein. Elle n'est pas moins riche. Alors ce serait le plus simple. Si vous me quittez maintenant, il n'y a pas de chute, si je puis dire. Hein. On s'arrête là. Vous allez partir avec votre innocence en croyant que vous êtes doux comme un agneau et blanc comme la colombe. Mais si vous restez avec moi, vous allez voir. Voilà. Donc vous verrez, hein, il y a d'autres exemples. Il y a les jeux de mots aussi qui sont prodigieux, n'est-ce pas ? Je vis un médecin, il me donna des remontants, je remontais, et puis je redescendais. Alors ça, c'est l'effet comique classique, n'est-ce pas ? Qui évidemment, sape complètement tout espoir de progrès, de remontée. Bon, j'essaie de susciter des questions, mais apparemment, je ne sais pas si je vous ai abasourdi, intéressé ou intrigué.
Merci beaucoup, Gérard.
Il est l'heure. Oui, il y a une question.
Ah, il y a une question.
On a encore 5 minutes.
Quel serait l'intérêt que son interlocuteur soit un total inconnu ? On ne sait rien du tout de son interlocuteur.
De toute façon, son interlocuteur n'est qu'une projection de lui-même. Hein. Il n'existe pas. D'ailleurs, vous savez ce qui est révélé à la fin. Hein. C'est que l'interlocuteur a exactement le même métier que Clamence. Il est lui-même avocat. Hein. Donc, en réalité, ce n'est qu'un dédoublement. C'est un discours de soi à soi. Et il ne peut pas en être autrement dans la mesure où vous excluez tout le monde de votre monde, c'est évident. Non, il n'y a pas de... Il n'est pas inconnu, il n'est que trop connu, parce que ce n'est que le double de Clamence. Bon. D'ailleurs, je ne sais plus combien il y a eu d'éditions de La Chute, dans l'édition Folio, mais moi, j'en ai une, parce que je ne travaillais plus que sur la Pléiade, j'en ai une très ancienne. Et la première de couverture était remarquable. C'est un personnage qu'on voit de profil et qui porte 2 masques. Alors c'est le signe du double, le signe du masque, bien entendu, le comédien, etc. Mais le fait finalement qu'il n'y a qu'une personne qui est de soi à soi, bien entendu. C'est un échange en 8 clos, totalement. Très, très belle illustration. On n'a jamais... Depuis, ils en ont choisi d'autres, mais aucune n'a été aussi remarquable. Bon, écoutez, je suis absolument charmé que vous soyez venu, que vous soyez resté jusqu'au bout, que vous ayez eu la patience d'entendre ce déballage très pressé, parce que je manquais de temps et je me suis trop pressé. Mais j'espère que vous en retiendrez quelque chose, enfin au moins l'envie de relire La Chute sous un certain angle, qui est vraiment l'angle de matériel des mots, les mots, hein, vraiment les mots.
Merci encore.
Merci, merci, merci.
Merci encore Gérard pour cette excellente conférence. Merci beaucoup à notre équipe technique, oui, et merci au public d'avoir été là ce soir. Parfait. Très bonne soirée à tous. Merci.